Disobey.
Disobey, le podcast qui ne coupe pas la parole.
Disobey.
Indignation totale.
Laurent de Sutter, bonjour. Alors vous êtes philosophe, professeur à la VUB, c'est l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes auteur aussi de plusieurs ouvrages, dont le dernier qui va nous occuper ici pendant un petit temps. C'est Indignation totale, ce que notre addiction au scandale dit de nous. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour compléter ce portrait? J'aurais oublié quelque chose?
Non. Sinon, on sera encore là après-demain, j'en ai peur.
Alors, dans votre dernier ouvrage, vous parlez d'indignation, de scandale. Et à un moment donné, vous dites que l'histoire de l'indignation pourrait être l'histoire de la raison. Alors pourquoi? On pourrait se poser la question, quels sont les points communs finalement?
Eh bien, en fait, les points communs sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut imaginer parce que, en réalité, si on y réfléchit deux secondes, si on réfléchit à la manière dont, nous vivons tous l'expérience de l'indignation, qui est une expérience qui traverse nos vies du matin au soir, hein, des réseaux sociaux, aux journaux qu'on lit, aux radios qu'on écoute, etc. Si on se rend compte des discussions que font naître ces indignations, on se rend compte d'une chose qui est quand même très très forte. C'est que ces indignations, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ne prennent pas vraiment la forme d'un réflexe, d'un cri, d'une espèce d'expression purement viscérale, de rage ou de quoi que ce soit, mais prennent toujours la forme d'un espèce d'échange un petit peu réglé, enfin d'un échange d'arguments, d'un échange où on se balance à la figure comme ça, des faits, des phrases, des mots, oui, des arguments en effet, mais aussi des références, on cite des auteurs, on cite des articles qu'on a lus, etc. De telle sorte que nos indignations s'inscrivent immédiatement dans un milieu qui est un milieu de langage ou un milieu de discours qui accepte au moins une règle qui est la règle qu'il y ait un échange. Même s'il s'agit de transformer cet échange en une espèce de match de noms d'oiseaux ou d'insultes qu'on s'envoie à la figure, en réalité, il y a néanmoins une forme de consensus sur le fait qu'il s'agit véritablement d'un échange. Or, à partir du moment où il y a échange, où il y a discussion, il y a évidemment un certain nombre de paramètres qui viennent décider ce qui peut rentrer dans ces changes, ce qui au contraire doit y être sorti. Un coup de poing, ça vaut pas, bon. Se traiter de connard et de fasciste, ça vaut, bon. De telle sorte qu'il ne s'agit pas d'un échange comme ça anarchique. C'est un échange qui se réfère à deux, trois éléments de base de toute forme de discussion, de toute forme d'intersubjectivité, et des formes qui remontent, si on en fait la généalogie, à la manière dont, dans la modernité, en tout cas la modernité occidentale, quelque chose comme la raison, pour utiliser effectivement ce grand mot, a été conçu. Parce que la raison, c'est pas, contrairement à ce qu'on croit peut-être trop souvent, c'est pas quelque chose d'éternel, la raison. La raison, elle vient pas comme ça du fin fond des âges, et puis elle est arrivée jusqu'à nous sans changer. La raison est quelque chose qui n'a pas arrêté de se modifier avec l'histoire de la pensée, l'histoire des civilisations, l'histoire de l'espace public, l'histoire des médias qui accompagnent cet espace public. De telle sorte que la forme particulière de raison dans laquelle nous nous situons et que nous utilisons au quotidien dans nos vies et dans nos interactions, eh bien, elle aussi appartient à un moment relativement récent dans l'histoire de l'humanité. Notre raison, c'est pas la raison des Grecs, c'est pas la raison des médiévaux, c'est pas la raison des gens de la Renaissance, c'est la raison qui naît, et c'est l'hypothèse que j'aurais tendance à faire, qui naît, au fond, au milieu de la modernité, à peu près à l'époque de la Révolution française, quand toute une série de figures, la plus importante d'entre elles étant le philosophe Emmanuel Kant, décide de reformaliser nos équipements intellectuels, de les redéfinir, de rejouer les cartes et de dire, au fond, la manière dont nous avons pensé jusqu'ici était une manière fausse, c'était une manière dogmatique, parce que c'était une manière qui nous obligeait à accepter un certain nombre d'articles de foi pour pouvoir penser. Eh bien, ce que dit Kant, c'est, on va construire maintenant une raison qui est une raison non pas dogmatique, mais une raison qu'il appelle critique, qui est une raison qui nous positionne, nous, comme sujet, comme figure, comme individu, dans une relation monde qui fait que ce monde, eh bien, nous avons la capacité de le juger. Et la raison, ce sera l'ensemble de ces équipements dont disposent les sujets, dont disposent les individus, pour pouvoir juger du monde. Et en effet, quand on parle d'indignation, ce à quoi on assiste, ce que l'on voit, c'est véritablement une espèce d'immense tribunal où chaque partie, comme ça, se propose des arguments pro ou contra à l'appui d'une position qui vise à établir, par rapport au monde, une situation politique, écologique, économique, tout ce que vous voulez, établir un jugement qui tombe comme ça, une bonne fois pour toutes, et puis qui après positionne celui qui a formulé ce jugement eh bien dans le camp des vainqueurs ou des perdants. Et véritablement, c'est ce que la raison, ou en tout cas la raison moderne, nous a donné comme héritage, et que l'indignation aujourd'hui illustre le mieux, et illustre d'une façon que j'aurais presque envie de dire caricaturale, c'est-à-dire elle illustre à quel point, au fond, cet équipement, dont on sait que par ailleurs il nous a apporté beaucoup dans l'histoire de la modernité, en termes de droit, en termes de tolérance, etc., eh bien peut-être qu'en fait il y avait un bug au départ, et que ce bug, aujourd'hui, avec la multiplication délirante de l'indignation qui nous étouffe tous, eh bien on se rend compte de l'ampleur de ce bug.
Retrouvez-nous sur notre site disobey.am.
Et donc justement, alors, si l'indignation et le scandale, finalement, le scandale qui déclenche l'indignation, se construisent autour des mêmes traits qui fondent la raison, cette raison moderne, quels sont ces traits, en fait, ces traits communs, ces traits distinctifs?
Il y en a beaucoup, mais dans mon livre, puisque vous avez eu la gentillesse de le citer, j'en distingue cinq. Qui serait peut-être trop long du reste d'explorer en détail. Le plus important pour moi, je crois, c'est celui qui découle le plus directement de cette espèce de bipartition du monde que la raison forme. C'est-à-dire, vous avez soit raison, soit vous avez tort. En gros, au bout du bout, quelles que soient les nuances que vous pouvez placer, quelles que soient les modalités que vous pouvez rajouter à votre discours, soit vous avez tort, soit vous avez raison. Mais à partir du moment où vous avez soit tort, soit raison, ça signifie que vous divisez le monde dans le camp de ceux, en deux camps, qui est le camp de ceux qui ont tort, le camp de ceux qui ont raison, monde qui n'arrête pas de division qui n'arrête pas de pivoter en fonction de qui regarde dans quelle direction. L'effet que cela provoque, de pouvoir dire j'appartiens au camp de ceux qui ont raison, au contraire, ces mecs-là, ils essaient de montrer que j'ai tort, les salauds, je vais leur montrer qu'ils ont tort de me dire que j'ai tort, ou en tout cas s'ils se donnent raison, moi je vais construire ma propre raison à partir du fait que eux veulent se donner raison contre moi, crée immédiatement un premier effet, qui est une première qualité ou un premier trait de cette raison, de cette rationalité, qui est le trait de l'identification. C'est-à-dire que, par la définition comme ça d'un scandale, si on prend l'exemple canonique, peut-être, qui est l'exemple de hashtag MeToo, parce que canonique, tout simplement parce qu'il est littéral. Hashtag MeToo, c'est quoi? C'est hashtag moi aussi. C'est-à-dire, hashtag moi aussi, je fais partie du groupe de ceux qui se reconnaissent parmi toutes ces femmes qui, effectivement, ont été victimes d'actes tout à fait déplacés et scandaleux de la part de toute une série d'hommes. C'est-à-dire qu'effectivement, je me constitue, moi, je m'installe dans une chaîne, dans la chaîne de toutes ces personnes qui se disent MeToo et qui finissent par, de toute manière, créer un groupe, une espèce de proto-groupe à partir du scandale, parce que ce scandale a pu, comme ça, diviser, d'une certaine manière, le monde en deux. Et je crois que c'est un trait qui est très, très important, ce trait d'identification, parce que c'est un trait qui déplace un petit peu l'idée que nous pourrions avoir spontanément d'un scandale. Quand on parle de scandale, on a l'impression que, oh, mon Dieu, hein, c'est un scandale, quelque chose arrive, un mot déplacé a été prononcé, un acte injuste, etc. Une entreprise a fait une cochonnerie dans la mer, que sais-je. Bon, on a l'impression que le scandale est ce qui vient interrompre un état des choses, vient briser, si vous voulez, une espèce de consensus. Et révéler soudain, à l'intérieur de ce consensus, peut-être des lignes de faille, des divergences, etc. Mais, en tout cas, il y aurait d'abord une espèce d'unité. Il y aurait d'abord une communauté, puis cette communauté serait mise en danger par le scandale. En réalité, ce que ce trait d'identification attaché à la rationalité du scandale, si vous voulez, permet de comprendre, c'est que c'est l'inverse. En réalité, c'est le scandale lui-même qui crée,
qui va fonder
la communauté, qui va lui donner sa raison d'être et qui va fédérer autour de lui tous ceux qui pourront s'y reconnaître comme étant ceux qui sont sollicités par ce scandale et de ce point de vue-là aussi s'opposent à soit à ceux qui l'ont causé ou à ceux qui refusent de le reconnaître, comme ça a été aussi le cas du reste dans le cas de hashtag MeToo avec cette série de femmes qui ont dit oui mais pas nous en réalité. Voilà. On est d'accord, il y a un problème, mais en fait, on ne veut pas être complètement dedans. Ce qui a suscité, dans le cas de cette histoire, c'est une tribune du Monde signée par Catherine Millet, Sarah Chiche et Peggy Sasse, qui a suscité un redoublement du scandale, parce que précisément, cette espèce de désolidarisation pointait du doigt le fait que la question dont il était question, si j'ose dire, était véritablement la question de la constitution de ce groupe. Et ça va relativement loin. C'est un grand penseur qui s'appelle René Girard, qui a beaucoup réfléchi à la question du scandale, mais dans un contexte très ancien, un contexte des premiers âges du catholicisme, qui a pu montrer que, au fond, pour les premiers chrétiens, la figure du scandale a été admise et considérée d'entrée de jeu, le scandalon grec, a été considéré comme effectivement le lieu de la constitution de la communauté. Pourquoi ? Parce que le scandale, eh bien, c'était celui de la crucifixion du Christ. Voilà.
D'ailleurs, vous dites que le mot scandalon en grec n'existait pas avant, en fait. Il se constitue par rapport à une traduction des textes hébreux. Hein.
Exactement, exactement. C'est un mot qui n'appartient pas directement au lexique normal du grec. C'est une espèce de précipité, une traduction comme ça qui est opérée par les traducteurs grecs, en l'occurrence de la Bible des Septante, qui mettent ensemble comme ça deux mots qui appartiennent au vocabulaire hébraïque, deux mots qui signalent tous les deux l'idée d'un piège dans lequel il s'agit de pas tomber, en gros. Cette chose sur laquelle vous trébuchez dans votre chemin et dont vous devez vous méfier, parce que si vous trébuchez dessus, bien, vous perdez d'une certaine manière la bonne direction, la bonne voie. Mais le scandale, c'est cette chose-là, c'est ce qui met en danger la foi possible, ou en tout cas ce qui met en danger la possibilité de votre relation, ou d'une relation qui soit une relation forte avec votre foi, donc avec Dieu et la figure du Christ, qui est aussi un scandalon dans un premier sens, qui est un sens législatif, c'est-à-dire, au fond, c'est qui ce type qui se fait mettre sur la croix ? Ben, c'est forcément un brigand, en plus sa mère, c'est quoi cette histoire de virginité ? Bon, du point de vue du légalisme juif, si vous voulez, il y a là un scandale aussi, mais qui est un scandale purement juridique. Eh bien, ce que font les chrétiens, c'est retourner ce scandale juridique en un scandale qu'on pourrait appeler ontologique, qui est un scandale qui va inscrire, si vous voulez, la communauté des chrétiens ou des premiers chrétiens à l'intérieur de l'espace d'une forme d'indignation dont j'ai envie de dire quelque part qu'elle dure encore, quoi.
Ouais. Donc c'est le scandale, en fait, si on reprend juste cet exemple aussi, et pour revenir après sur MeToo, qui était quand même aussi illustratif de ma question qui suit, mais pour terminer avec la crucifixion, c'est, si je comprends bien, d'un côté les juifs, c'est un scandale, parce que finalement, je pense que la crucifixion c'était vraiment réservé en fait aux moins que rien, quoi, je veux dire, c'est des gens qu'on ne considérait pas comme des hommes, et de l'autre côté, les chrétiens ont utilisé ce moment-là comme moment fondateur, finalement, pour dire, oui, mais c'est ça qui est scandaleux, c'est qu'en fait, avec ce châtiment qu'on a fait subir à notre Sauveur, en gros. Voilà, on construit notre église, quoi.
Oui, oui, exactement. C'est exactement ça. C'est la figure. C'est une figure qu'on connaît aujourd'hui dans toute une série d'autres milieux. Hein. C'est la figure de ce qu'on a pu appeler le stigmate. Hein, quand on voilà, à force de traiter les putes de putes, elles ont fini à un moment donné par dire, bah très bien, vous nous traitez plus, bah d'accord, bah là on est des putes et vous allez voir ce que c'est qu'une pute. Eh bien, d'une certaine manière, c'est déjà cela qu'on voit à l'œuvre avec cette espèce de premier moment du scandale, où ce qui est scandale pour les uns l'est aussi pour les autres, mais d'un autre point de vue et à un autre endroit ou à un autre niveau. Alors j'essaye de me souvenir de cette fameuse phrase la crucifixion, justement sur la crucifixion du Christ, qui est scandale pour les uns et pas pour les autres. Malheureusement elle ne me revient pas, mais ça c'est pas grave. Mais véritablement c'est cette idée que le scandale crée, fonde, plutôt que défaire ou mettre en danger, c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose, je crois, qui est très important.
Vous aimez notre podcast ? Abonnez-vous.
Vous avez évoqué donc le mouvement MeToo, effectivement, qui a eu une ampleur pas possible sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, justement, les commentaires sur les publications, etc., ça semble être finalement l'espace le plus abouti pour récolter toute l'indignation du monde. Pourquoi est-ce que les gens sont si addicts à cette forme d'expression ? Et puis, est-ce que c'est vraiment une forme d'expression, finalement ?
Oui. En réalité, pour pouvoir parler des réseaux sociaux de manière un petit peu non bête, parce que le danger serait évidemment de leur tomber sur le dos en leur disant qu'ils sont responsables de tout et de faire comme Phil Kinkraut fait avec le téléphone portable, vous voyez, qui est responsable de tous les maux de la Terre. Je pense qu'il est très important de garder à l'esprit deux choses. Première chose, c'est que les réseaux sociaux n'existent pas seuls dans le monde. C'est-à-dire qu'ils existent en collaboration et en liaison avec toute une série d'autres formes de médias, qui sont des médias qui existent soit sur Internet, soit qui sont des médias papier, des médias radio, des médias télévisuels, tout ce que vous voulez. Des médias qui eux-mêmes appartiennent à une histoire des médias qui est celle de l'avènement au fond des médias de masse. Voilà, qui naît avec les feuilles de jour, les premières feuilles de journal au XVIIIe siècle, les feuilletons du XIXe, et puis l'invention du voilà, une espèce de massification des médias, qui est une massification qui a eu un effet qui est quand même un effet très très important, qui a un effet de démocratisation, c'est-à-dire que le lieu de la diffusion des nouvelles, du savoir à propos du monde, se sont multipliés et ont été rendus accessibles à de plus en plus de gens. Et donc c'est une très grande chose, ça, et c'est une chose très très importante, sur laquelle je pense qu'il est très il ne faut pas revenir. Et en tapant sur les réseaux sociaux, qui sont aussi des lieux de démocratisation, puisque n'importe qui, en effet, peut s'y exprimer, il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose sur lequel il est difficile de revenir, en disant non, tout compte fait, non. Non, non, la démocratie dans les médias, c'est pas bon. Il va falloir restreindre, d'une certaine manière, le droit à la parole. En réalité, on sait très bien qu'à l'époque où le droit à la parole était restreint, c'est-à-dire où le prix à payer pour pouvoir accéder à la parole publique était plus élevé, eh bien, à cette époque-là était évidemment l'époque, au fond, de constitution, de domination, d'oligarchie. On décidait, toi, tu peux parler, toi, tu peux pas parler. Toi, tu peux parler parce que t'es mon copain, mais toi, tu peux pas parler parce que t'es pas mon copain. Et donc, c'est vrai que les médias sont restés pendant très longtemps les médias des puissants. Aujourd'hui, c'est le deuxième point, on se rend compte, grâce à cette démocratisation qui appartient à l'histoire des médias, qui appartient aussi à l'histoire de l'espace public, et donc l'histoire de la rationalité publique dont je parlais tout à l'heure, eh bien, on se rend compte de tout ce qui a été réprimé au moment où l'accès aux médias était un accès qui était plus difficile et plus coûteux. Réprimé dans le double sens psychanalytique de fallait garder des choses pour soi ou bien les raconter au café du coin après avoir bu 15 bières, mais ça se disait pas, mais réprimé aussi dans un sens beaucoup plus brutal qui était ces voix-là doivent se taire. Et donc le danger ou le risque ou la difficulté quand on parle des réseaux sociaux, quand on parle de l'indignation sur les réseaux sociaux, c'est d'oublier cela et de dire non, les réseaux sociaux c'est juste le dépotoir de la bêtise du monde, il faut les nettoyer comme on nettoierait les écuries d'Augias, et on reviendrait enfin à une situation comme ça d'échange rationnel entre personnes cultivées, de bonne compagnie, voilà, qui pourront décider des valeurs du monde, etc. Ce serait une catastrophe. Ceci dit, évidemment, il est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont le dépotoir de tout ce qu'il y a de dégueulasse, d'une certaine manière, chez les individus. Mais j'ai envie de dire que ce dépotoir, il existe parce que les vies de la plupart d'entre nous sont des vies de merde. Je veux dire, il faut dire ce qui est. Et donc, quand on regarde la manière dont les choses s'expriment sur les réseaux sociaux, il faut revenir ensuite derrière sur les conditions socio-économiques, socio-professionnelles, enfin, tout ce qui fait qu'à un moment donné, naissent, apparaissent et se multiplient des frustrations. Mais moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est un autre sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette question de la raison. Parce qu'en réalité, la manière ensuite dont ces choses s'expriment et dont ce vomi, si vous voulez, ce crash sur les réseaux sociaux, la manière dont elle est exprimée, ce cadre de l'échange à nouveau, de l'échange d'arguments, même si les arguments se transforment très vite en point Godwin et en crachage à la figure, ce sont des échanges qui sont nourris par cette histoire même des médias. D'une certaine manière, le fait que l'on aboutisse à ces échanges de noms d'oiseaux et à, au fond, l'expression, comme ça, on va chercher des informations qui permettent de justifier le pire complot à gauche, à droite, appartient de manière intégrale à l'histoire du développement de l'opinion publique rationnelle, en ceci que, et c'est un autre trait peut-être de la rationalité du scandale, c'est que c'est une rationalité qui a pour principe, s'il s'agit de juger le monde, de mettre les sujets qui jugent dans une position, au fond, qui est une position supérieure par rapport à ce qu'ils voient. C'est-à-dire une position de clairvoyance. Quand vous jugez du monde, vous êtes plus intelligent que le monde. Vous mettez vous-même dans une situation qui fait que le monde ne peut pas revenir vers vous en disant « t'as tort coco ». Tu dis « non, je sais très très bien que derrière ces magouilles de politicard, en réalité, il y a telle entreprise ou tel lobby pourri qui vient verser des pots de vin. Je le sais. » Wink, wink. Et ce « je le sais » repose sur l'assomption, la présomption d'une structure du monde, en apparent et en caché, dans laquelle la vérité, effectivement, est toujours un peu sale, et se trouve toujours, voilà, il faut aller gratter quelque part dans les toilettes, hein, quoi, pour aller trouver la merde qui se cache derrière les sourires et le strass. Et cela, c'est quelque chose qui ne vient pas tellement d'une structure psychologique, hein, ou qui ne vient pas non plus tellement de cette question socio-professionnelle et des vies problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui, mais qui vient véritablement de cet équipement intellectuel qui ne nous place pas dans une position autre. Elle ne nous offre pas d'autre choix que de toujours creuser. S'il s'agit de déterminer qui a tort et qui a raison, il faut trouver la raison qui permet de dire qu'on a tort ou raison. Ouais. Et cette raison, il faut aller la chercher là où elle est, c'est-à-dire dans ce que les autres ne savent pas, ou dans ce qu'on on présume que les autres ne savent pas, ou dans ce que les autres ne croient pas, croient savoir, mais en fait ne savent pas vraiment, etc., etc., etc. C'est pour ça que j'ai tendance à dire, c'est un peu une provocation, mais c'est une provocation que je tiens, j'ai tendance à dire que la forme la plus réalisée de la raison dans les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, c'est précisément les théories du complot. Parce que la théorie du complot permet de rendre visible à son état pur cette espèce de relation au monde, disant il y a toujours quelque chose derrière. Ouais. Et un indice de ça, qui est aussi peut-être une petite théorie du complot, mais qui serait ma petite théorie du complot personnelle, si vous voulez, c'est cette espèce de coïncidence étrange qui existe entre le moment où Emmanuel Kant formalise cette espèce de passage entre la raison dogmatique et la raison critique, hein, dans, en l'occurrence, pour être un peu technique, dans la seconde préface qu'il écrit en 1787 de la première critique, hein, la critique de la raison pure, son grand chef-d'œuvre, en 1787, 2 ans avant la Révolution française, c'est exactement le même moment où apparaissent sur la scène historique, c'est les historiens des théories du complot qui disent ça, effectivement les théories du complot, la première d'entre elles documentée ou reconnue comme telle, ou officielle si vous voulez, étant cette théorie mise en avant par toute une série de religieux ultramontains nostalgiques de l'Ancien Régime, qui après l'exécution de Louis XVIII disent « en réalité c'est la Révolution française, c'est un complot des francs-maçons pour en finir avec la religion ». Voilà.
C'est le prieuré de Sillon, etc. Quoi, c'est ça.
Exactement. Voilà, on est là dedans, et il est amusant de voir qu'émerge au même moment l'idée de la raison critique et cette espèce de sa version folle.
Ouais.
Étant donné que cette émergence est si proche ou si conjointe, qu'on peut se poser la question de savoir si l'un n'est pas la folie de l'autre réciproquement, ou si en tout cas il n'y a pas dans l'une des gens jachères en attente, en latence, la folie de l'autre, si en réalité c'est pas la raison elle-même qui au fond est complètement folle, parce que précisément elle nous met toujours dans cette position de vouloir nous construire des raisons basées sur cette chose un peu salope qui se dissimule derrière la réalité plus ou moins polie du monde.
Alors justement, quand on, en tant qu'individu, quand on prend part au scandale, qu'est-ce que ça dit de nous, ça, finalement?
Ben, en tant qu'individu, d'abord, ça dit de nous notre désir profond de participer, en réalité. C'est-à-dire notre désir profond de appartenir à un espace dans lequel on n'existe pas pour rien. C'est-à-dire un espace dans lequel on peut dire « je suis, j'existe ». Et en effet, la manière dont les scandales ou les indignations nous balayent en fait, du matin au soir, et en disant ça, je suis le premier, hein, je m'exclus pas du tout de toute cette affaire, je suis le premier à m'énerver le matin en allumant mon Facebook ou en lisant mon journal. Je lis le journal sur Internet, je le lis pas sur... Enfin bref, voilà, ça, on est en 2019. Je suis le premier, évidemment, hein, je suis le premier à m'énerver. Mais ce qui est intéressant dans cet énervement, ou cet énervement à répétition, qui fait qu'en fin de journée, on ne sait plus très bien ce qui nous a énervé le matin, bon, c'est que ces énervements, en fait, ne comptent pas vraiment dans nos vies. Je crois, c'est une hypothèse que je ferais, c'est qu'ils ne comptent pas vraiment. Ils ne sont pas si importants que ça, en tant que tels. Ce qui importe en eux, c'est la série. C'est le fait qu'en sautant comme ça d'un énervement à l'autre, d'une indignation à l'autre, et donc d'un scandale qui me sollicite, c'est-à-dire en sautant d'une partition du monde à l'autre, c'est-à-dire où... Là, sur ce plan, je suis vegan. Sur cette question-là, je suis pour l'abolition de la prison. Sur cette question-là, non, je suis pour le libéralisme économique. Sur cette question, vous voyez ce que je veux dire, ça crée comme ça chaque scandale crée des positions comme sur une table de mixage. Vous auriez des myriades de pistes qui correspondent toutes à un scandale et vous poussez tous vos curseurs comme ça et ces curseurs finissent par définir une ligne qui est une ligne d'identité. Puisque le scandale a cette vertu d'identification, c'est-à-dire de constitution de groupe, vous affirmez, comme ça, par le saut d'un scandale à l'autre, votre appartenance à toute une série de groupes qui peuvent être les mêmes et qui peuvent être légèrement différents, etc., qui finissent par définir quelque chose comme un moi, ou une espèce d'être qui serait le vôtre. Pour moi, c'est un peu une tragédie, ça, en l'occurrence, parce que l'être, c'est une drôle de catégorie, c'est comme la raison. Ces catégories qui viennent de l'histoire de la philosophie, dont on considère qu'elles sont tellement évidentes, la raison c'est un truc beau, l'être c'est un truc beau. J'ai un peu expliqué que la raison, si on gratte un petit peu, est-ce que c'est si beau que ça? On peut se poser la question. L'être c'est la même chose, est-ce que c'est si beau que ça? Parler d'être, retrouver son être, se retrouver soi-même par exemple, quand on parle de se retrouver soi-même. Extraordinaire cette phrase-là, c'est une phrase qui vient d'où? C'est une phrase que le développement personnel n'arrête pas de marteler évidemment en disant retrouvez-vous vous-même et retrouvez-vous vous-même pourquoi? pour retourner au bureau, pour continuer à bosser. Retrouvez-vous vous-même pour continuer à assumer votre rôle dans la famille, votre rôle dans la société. En gros, retrouvez-vous vous-même, ça veut dire quoi ? Retrouvez votre place. C'est-à-dire la place qu'on vous a donnée, la place qu'on vous a assignée. Et en effet, dans la figure de l'être, il y a cette espèce de hantise ou de spectre, ou de, comme ça, un peu policier, si vous voulez. Une fois que vous revenez vers vous-même, que vous entourez comme ça, par exemple, de toutes ces indignations qui vous dites, au fond, moi je suis ça. Je suis vegan et je suis écolo, ou au contraire, je suis chrétien, je suis contre le mariage pour tous, etc. Ça vous met dans une position qui est une position, au fond, de fermeture extrême. Qui est une position très, très, je vais pas dire confortable, je suis pas sûr que ce soit confortable, mais une position qui est un petit peu rassurante, puisque les forces de désagrégation qui vous assaillent en permanence sont si puissantes, mm-hmm. pouvoir se dire, au moins je suis ça, ouais. c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que ça vous place dans une position qui est une position d'abord très seule, hein, vous êtes tout seul comme ça, et puis une position qui est une position fermée. Il y a assez peu de possibilités de devenir autre chose que ce que vous êtes, de sortir de votre place, de vous posez la question des limites qui sont les vôtres, etc., qui est impliquée là-dedans. Et j'ai bien peur que l'alliance de la raison et de l'être, à l'intérieur, comme ça, de la définition de nos vies comme baignées par ces scandales qui nous renvoient à nos qualités et à nos goûts, à nos valeurs, à nos principes, quoi que ce soit que l'on entende par tous ces mots-là, eh bien, soit davantage de l'ordre du dead end, quoi, du cul-de-sac, ouais. que véritablement de l'ordre d'une véritable retrouvaille avec ce dont on serait capable de grand et de beau.
Et cette succession de scandales, ça m'évoque, moi non plus, là pour le coup, je vais pas retenir la phrase, mais Beaumarchais fait dire à Figaro à un moment donné dans son monologue là, qu'il en a marre justement de tous ces scandales qu'on sort le matin et qui le soir même sont de toute façon étouffés. Et quand vous dites aussi que c'est aussi constitutif quand on prend part au scandale de l'être, de la personne qu'on est, et donc ça. Quelque part, ça forge aussi notre identité en réaction à des choses. Est-ce que finalement, le scandale, pour revenir sur la théorie du complot, pour tout merger en une fois, est-ce que finalement, il n'y a pas une espèce de grand tout qui fait en sorte que c'est bien qu'on soit à notre place, quoi ? Cette espèce de main invisible, là,
oui,
et
oui,
de gouvernement caché.
Il y a, alors, oui, c'est ça. Le complot de ceux qui. Oui, j'aurais tendance à dire que quelles que soient les intentions des uns et des autres, on n'est pas des grands clercs, on n'est pas des. Voilà, sonder les esprits et sonder les cœurs, c'est pas quelque chose que je peux prétendre faire. Moi, la seule chose que je peux prétendre faire, c'est examiner, si vous voulez, des structures qui sont des structures de pensée, ou plutôt des questions qui sont des questions d'équipement de pensée. Comment est-ce qu'on équipe nos pensées et comment ces équipements nous permettent des choses ou rendent impossible d'autres choses. Ça, c'est véritablement ce qui m'intéresse. Et donc, par exemple, dans le cas de ces figures effectivement, du complot, de l'être, etc., c'est vrai qu'il est relativement frappant de voir que le résultat général de tout cela, que ce soit aussi bien du point de vue politique que du point de vue psychopathologique, hein, je veux dire, l'explosion de la dépression, c'est quoi ? Eh bien, c'est la création d'un état général qui est effectivement un état un petit peu anesthésié, ou un état d'anesthésie où on ne sait plus très bien quoi faire, on n'est plus sûr de vouloir faire quoi que ce soit, parce que le monde, de toute façon, a atteint un tel niveau, et puis on est tout seul, et puis etc. Je crois que dans les deux cas, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre non pas pour dénoncer, si vous voulez, cette situation ou pour nous plaindre. Je l'ai fait parce que je crois qu'il est très important aujourd'hui, quand on utilise des mots comme raison ou comme être ou d'autres mots, de peser les possibles et l'impossible, et donc aussi de peser les alternatives qu'on pourrait avoir par rapport à eux. Moi, ce qui m'importe, c'est pas tellement de dire du mal de la raison, c'est de dire, est-ce qu'on peut pas trouver une autre manière de penser qui nous permettrait de sortir des impasses que cette raison moderne, critique, jugeante, toute puissante, enfin qui nous donne comme ça le sentiment de toute puissance, une autre forme de raison qui ne serait pas piégée comme celle-là, si vous voulez, qui réparerait le bug ou qui la réinventerait dans d'autres directions. De la même chose pour l'être. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une autre manière de se définir comme individu qui ne nous ramène pas en permanence à nous-mêmes, à cette espèce de nous-mêmes qui existerait comme ça, comme une espèce de petite monade, de petits atomes comme ça qui volerait dans le vide et qui de temps en temps viendrait s'entrechoquer avec d'autres individus. Donc mon travail, si j'ose dire, c'est un travail de proposition par rapport à ça. C'est pas un travail au sens où j'aurais un système tout prêt comme ça que je mettrait sur la table et signez en dessous, s'il vous plaît, et puis versez les droits d'auteur tant qu'on y est. C'est véritablement une proposition, une proposition de travail pour nous tous, parce que, en fait, je crois que le véritable problème auquel on est confrontés tous par rapport à cette question de l'indignation, par rapport à ces échanges toxiques qui nous obsèdent, par rapport aussi à ce contexte politique dont on sent qu'il se nourrit, en fait, de cette obscénité, davantage qu'il organise, du reste, hein, je pense. C'est cette espèce de travail de pensée, de travail des idées, de travail des mots, de travail des concepts qui nous permettrait peut-être de déployer une espèce de programme, un programme par exemple pour une raison qui ne serait une raison qui ne se baserait plus sur l'identification, qui ne serait plus une raison qui regarderait d'en haut ou de l'extérieur, mais qui regarderait avec ou dedans les choses, une raison qui ne serait plus une raison qui fonctionnerait par opposition, par des « mais » ou par des « oui, mais si, alors le danger serait que », mais qui dirait bah, « très très bien, allons voir si vous voulez, une relation intellectuelle au monde qui serait une relation qui serait ancrée dans l'acceptation du danger ou du risque, si vous voulez. » Même chose avec l'être, plutôt que de parler d'être, moi je préfère de parler de devenir. Alors évidemment c'est peut-être très nietzschéen ou deleuzo-nietzschéen, parce que effectivement, Gilles Deleuze est un philosophe qui a beaucoup d'importance, qui a eu beaucoup d'importance pour moi et qui en a évidemment toujours. D'ailleurs, c'est de dire, ok, est-ce que notre vie, c'est pas juste, plutôt que ce truc un peu navrant de toujours regarder dans le rétroviseur, regarder en arrière, se dire, mais qui suis-je, qui suis-je ? De se poser la question, mais que puis-je ? Mm-hmm. Et comment continuer à être autre chose que ce que j'étais il y a 5 minutes et que ce que j'étais il y a 10 ans et que ce que j'étais quand j'étais gamin, voyez. Et voilà, donc c'est ma tâche. Alors évidemment, c'est une tâche qui peut prendre un volet politique aussi, je crois. Mais en tout cas, c'est pas une tâche dont je voudrais qu'elle se limite à elle-même se transformer en une machinerie critique qui prétendrait dire le dernier mot de la réalité dans laquelle nous vivons.
Ouais. Et justement, on a vu que le scandale, l'indignation sont construits de la même manière que la raison et sur les mêmes traits, sur les mêmes idées qui les sous-tendent l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ou à quoi pourrait ressembler une rationalité qui renoncerait à la raison? Vous en parlez évidemment dans la conclusion, et vous parlez aussi de raisonnement, enfin, la différence entre indigné et indigne.
Oui.
Donc, ça pourrait être quoi cette rationalité qui renonce à la raison?
Ben, je dirais que s'il faut donner un exemple concret, comme on dit, j'aurais tendance à prendre la différence qui existe entre évidemment, ces indignations voilà, quotidiennes et puis celles qui peuvent traverser un jour, une fois, certaines personnes. Bon, aux indignados bien nommés des mouvements espagnols, on pense, je ne sais pas, ben, prenons Greta Thunberg aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, à un moment donné, mettent un point d'arrêt à la série, mettent un point d'arrêt à cette espèce d'autoroute d'indignation, s'arrêtent et disent « c'est celle-là ». Alors, on ne sait pas très bien si c'est eux qui disent « c'est cette indignation-là » ou « c'est ce scandale-là » ou « c'est cette chose-là » ou si c'est la chose elle-même qui lui dit « tiens, mon coco, tu viens ». C'est-à-dire, on ne sait pas très bien si on est appelé ou si on... Peu importe, du reste. Enfin, il y a quelque chose comme une forme de rencontre avec quelque chose qui sollicite un pas de côté ou une sortie par rapport à cette espèce de chaîne, comme ça, des indignations, qui est aussi immédiatement un pas de sortie par rapport, au fond, à ce que les gens étaient, à ce que ces personnes étaient. Et si j'aime beaucoup le cas de Greta Thunberg de ce point de vue-là, c'est parce qu'il y a chez elle un trait qui rend cela encore plus visible. Elle est autiste Asperger. Et donc elle dit elle-même dans ses discours que les relations sociales, les groupes, on discute, ça l'ennuie un petit peu.
Ouais.
Voilà, et qu'elle préfère faire son truc. Et la manière dont elle le dit, c'est assez révélateur de ce dont il est question, c'est-à-dire d'espèce de pas de côté où, plutôt que de se consolider comme ça soi-même dans ce qu'on serait, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre presque du vide. À un moment donné, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé chez tous les militants et tous les activistes. Même s'il peut y avoir des querelles d'ego, tout ce que l'on veut, il y a une forme d'impersonnalité qui est acceptée, si vous voulez, parce que ce qui compte, c'est ce qui vous traverse, c'est-à-dire c'est ce scandale qui vous traverse davantage que la manière dont ce scandale, c'est un bijou de plus, disons, sur votre plastron, quoi. Et donc là, il y a chez ces figures-là, il y a quelque chose qui est effectivement quelque chose qui est radicalement opposé à cette espèce de logique de l'argutie, du oui mais, du machin, de la discussion, et aussi à cette logique de un petit peu narcissiste, narcissique, identificatoire, où la question n'est plus de savoir si ça a le moindre sens ce que je défends, si j'ai tort ou si j'ai raison. Ce que je fais, c'est je tente de le faire exister. Cette chose qui me tient, qui me prend, etc. etc. Donc là, il y a, si vous voulez, des exemples qui seraient des exemples d'une rationalité en action, d'une rationalité pratique, dans laquelle la question est celle de l'existence et de l'intensification de l'existence. Comment est-ce que cette chose qui me prend, qui me saisit, qui m'importe, je peux la faire exister de la manière la plus forte possible ? Voilà. Après, à nouveau, il n'y a pas de manuel. Et c'est des exemples, mais dont il ne faut pas faire non plus des icônes. Je crois que aussi, du reste, c'est pas, il n'y a pas que dans le domaine de l'héroïsme politique, enfin, ou dans le domaine de l'action politique, que ce genre de choses existe. Je pense que ça doit pouvoir exister justement partout, et justement là où les choses sont les plus insignifiantes, dans le plus quotidien de nos existences. Rééquiper notre regard de telle manière que on ne soit plus au-dessus des choses, mais en dessous, c'est-à-dire quand, je sais pas, vous allez au cinéma. Plutôt que de dire sortez d'un film, vous commencez à vous crêper le chien pour savoir si c'est un grand ou un grand film ou si c'est une merde, puis il y a toujours un petit malin qui dit non, il ne faut pas dire ça de manière objective, en fait ce qui est important c'est subjectif, est-ce que tu as aimé ou pas aimé. En réalité on s'en fout mais éperdument de savoir si vous avez aimé ou pas aimé, on s'en fout éperdument de savoir si c'est un grand film ou si c'est un petit film ou si c'est rien du tout. La question c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous avez vu. La réponse ça peut très bien être rien, c'est pas grave qu'on puisse ne rien faire avec quelque chose. Mais plutôt que de perdre son temps en espèce d'argutie où en réalité on passe son temps à se remettre dans le portefeuille ce que l'on rencontre, ce que l'on voit, effectivement du cinéma à la cuisine, en passant par nos engagements politiques, nos relations avec l'environnement, etc., etc., que la question soit, qu'on se pose soit pas celle de savoir si c'est beau, c'est bien, c'est vrai, c'est bien, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça.
Ça pourrait même carrément conclure le truc, mais j'ai quand même encore une question ou l'autre. Justement, pour parler de ce qu'on peut faire avec ça, et vous l'avez un petit peu évoqué, justement, c'est l'anesthésie. Donc ce scandale, ce flot de scandales incessants, un chasse l'autre, et ça ne s'arrête jamais, et au final, voilà, on réagit de réaction en réaction. Et à force de scandales, vous dites dans votre livre que l'être, en fait, s'en trouve anesthésié, vous l'avez évoqué ici, là, maintenant, avec nous, et à force d'anesthésie, au final, la société, généralement, vers la dépression globale. Alors ma question c'est est-ce que ce scandale ou cette indignation ou cette anesthésie de l'être ne serait pas une des causes d'une théorie qu'on entend beaucoup pour l'instant, c'est l'effondrement de la civilisation.
Ah oui, oui. C'est pas une question facile, ça, parce que effectivement, on peut interpréter la collapsologie comme le dernier sursaut de vie de la personne dépressive et qui du coup trouve un bout de jouissance dans la possibilité de la destruction du tout. Au moins, si tout se détruit, on aura au moins vécu cette destruction et ce sera mieux que d'avoir rien vécu du tout, d'avoir vécu cette vie de spectre. C'est possible. C'est une manière de le voir, de dire qu'il y a beaucoup de jouissance là-dedans, et une partie de moi est persuadée qu'effectivement il y a beaucoup de jouissance là-dedans, et comme toujours avec la jouissance. Voilà, la jouissance étant attachée, si on en croit Freud, hein, et Lacan étant attaché de manière directe à la question au fond de la mort, ce dont on jouit le plus, c'est effectivement de la mort. Et bien, en effet, de ce point de vue-là, la destruction du monde est la jouissance par excellence. Or, comme la jouissance est ce qui manque à l'anesthésie, on serait là dans une espèce d'équation qui est une équation parfaite. C'est vrai, mais en même temps, je pense qu'il y a dans les avertissements de toute série de collapsologues, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout d'accord avec eux, dans ces avertissements, il y a quelque chose qui est, comment dirais-je, de l'ordre de la réalité, et à travers cet ordre de la réalité, de la volonté justement de nous sortir, ou de nous extraire de cette figure de l'anesthésie, de nous tirer en dehors des espèces de rails que l'on a pris pour nous. Il y a au moins un appel. Est-ce que c'est le meilleur appel? Est-ce que c'est le plus efficace? Bon, ça c'est une autre question, mais en tout cas, il y a un appel à nous sortir de quelque chose et à faire effectivement à faire ce pas de côté, c'est-à-dire à nous désanesthésier ou à recréer une forme de à coup de piqûre de créer une forme de sensibilité dans les endroits de notre être ou de notre personne où nous étions devenus insensibles. Après, moi, j'aurais tendance à dire. En fait, si je suis pas d'accord avec ça, c'est parce que j'aurais tendance à dire que la stratégie est pas en réalité pas la meilleure parce qu'elle reproduit ce qui est à l'origine de l'invention même de l'anesthésie. Qu'est-ce qui s'est passé quand on invente l'anesthésie quand ces deux chirurgiens américains en 1828 réalisent la première anesthésie générale à base de si je ne m'abuse, d'inhalation d'éther sulfurique. Ce qu'ils réalisent, c'est le fantasme. Non pas des individus de ne plus avoir mal, mais le fantasme des chirurgiens de pouvoir opérer en paix. C'est véritablement ça qui était très important. L'enfer de l'opération avant l'invention d'anesthésie, c'est qu'un corps n'était pas qu'un corps, un corps était habité, un corps exprimait la douleur, c'était pas juste cette chose, cette masse de chair, si vous voulez, sur laquelle vous pouviez ensuite travailler, et qui est une masse, au fond, passive, et qui, voilà, donc vous pouvez faire ensuite ce que vous voulez. Ça, c'est très important pour comprendre l'histoire de l'anesthésie, de le voir pas du point de vue de ceux qui souffrent, mais du point de vue de ceux qui peuvent ensuite agir, parce que la manière dont l'anesthésie s'est ensuite répandue dans nos sociétés, à travers, par exemple, tous les moyens de gestion des maladies mentales un petit peu extravagantes, par exemple la psychose maniaco-dépressive, en phase maniaque, etc., jusqu'aux antidépresseurs d'aujourd'hui, c'est la même généalogie chimique. C'est le même type, si vous voulez. Il y a plein de modifications et des chimistes me tueraient s'ils étaient en face de moi. Mais en gros, c'est la même famille de produits agissant sur les mêmes espaces et les mêmes zones du cerveau, comme ça, qui vont des premiers anesthésiques aux antidépresseurs contemporains et qui répondent tous à une logique qui est une logique relativement identique, qui est précisément la logique exprimée par ce psychiatre prussien qui s'appelait Émile Kraepelin en 1899 quand il invente la catégorie de psychose maniaco-dépressive. Ce qu'il dit, il est directeur d'hôpital, donc il a des problèmes, lui, parfois. Donc ce qu'il dit, quand il décrit cette maladie, il dit, voilà, le problème de la psychose maniaco-dépressive, c'est ce moment de ce qu'il appelle en allemand, il dit « Irrsein ». C'est un mot un peu bizarre, « Irrsein », c'est l'être « sein » qui erre, qui part en errance, comme ça, qui se met à voguer la galère. Ce moment-là, il faut faire quelque chose. Ce moment-là, qui est le moment, évidemment, de la phase maniaque, si vous voulez. Quand vous avez un hôpital, phase maniaque, c'est l'enfer, parce que la phase maniaque, elle a tendance à se... Quand quelqu'un devient un peu part en live, les gens d'à côté ont tendance à partir en live aussi, et vous avez ce... Voilà, c'est très contagieux, la manie, d'une certaine manière. C'est très contagieux, l'excitation. C'est le mot qu'il utilise, et contre lequel il a envie de lutter. Donc pour lutter contre cette excitation, excitare, c'est être tiré hors de soi, c'est-à-dire cette irresign, comme il le dit en allemand, cette espèce d'errance de l'être, lui, ce qu'il veut, c'est utiliser des produits dérivés des anesthésiques pour faire en sorte que les gens reviennent à l'état que lui considère bon, qui est l'état dépressif. Le bon maniaco-dépressif, c'est le dépressif. Le problème, c'est que Kraepelin est un homme qui a eu une influence énorme dans l'histoire de la psychiatrie, de la psychopathologie. Encore aujourd'hui, le fameux manuel diagnostique et statistique des maladies mentales utilisé par l'Association mondiale de psychiatrie repose encore sur une hypothèse fondamentale de la maladie mentale, qui est une hypothèse dite néo-kraepelinienne, c'est-à-dire qui vient directement de ses formulations. Et donc, il y a plein de choses comme ça qui viennent de l'univers mental de Kraepelin, de la manière dont il a pensé la maladie mentale, dont le rôle des anesthésiques a fait partie du traitement, qui n'en était pas un, qui est plutôt un écrasement comme ça, des maladies mentales, est encore arrivé d'une certaine manière jusqu'à nous. De telle sorte qu'en effet, on peut en arriver à cette espèce de conclusion que, du chirurgien qui veut pouvoir manipuler des corps à, je ne sais pas trop quels sont les chirurgiens d'aujourd'hui, mais qui pourraient manipuler nos personnes pour effectivement que nous évitions de errer et que nous restions bien intégrés à l'intérieur des limites étroites de notre être sans errance, il y a effectivement un continuum. Quel rapport avec la collapsologie ? Eh bien, j'aurais tendance à dire que la collapsologie elle ne nous aide pas véritablement à nous exciter, si vous voulez. Elle ne nous aide pas véritablement à sortir des limites de notre être. Au contraire, elle en rajoute une couche dans l'affirmation de notre impuissance. Elle affirme une couche dans le fait qu'effectivement, nous sommes aux prises avec des processus qui nous dépassent tellement que oui, là, peut-être qu'on peut acheter bio et local et se convertir à l'énergie verte, mais de toute manière, ça ne servira pas à grand-chose, etc., etc. De telle sorte que je ne suis pas certain, je traite même certain du contraire, que ce soit le meilleur moyen d'essayer de secouer l'asile de fous que nous sommes devenus, de telle sorte qu'on en fasse péter les murs et qu'on envoie chier les docteurs.
Mais peut-être que ça aura amené, en tout cas, des réactions, la collapsologie, là je fais une digression, mais ça aura peut-être amené des réactions, la création de mouvements de type les néo-transitionneurs, etc., des gens qui essaient de voir plus loin, quoi, qui à un moment donné se disent, oui, mais ok, il y a quand même quelque chose qui se passe, et comment dans cette perspective d'un autre monde qui arrive, je peux, moi, agir sur ces nouvelles bases que je dois aussi, moi, contribuer à définir, quoi.
C'est vrai. Moi, j'aurais tendance à être plutôt du côté de ceux qu'on appelle accélérationnistes aujourd'hui. Accélérationniste, pas au sens on va aller plus loin dans toutes les conneries qu'on fait aujourd'hui, pas du tout. Mais dans un sens qui est un peu plus technique, qui est de dire la condition sine qua non, vraiment sine qua non, pour sortir de la mouise dans laquelle on est, à tout point de vue, c'est accepter. C'est une fatalité, c'est une acceptation qui n'est pas une acceptation de gaieté de cœur, ni une acceptation qui va sans problème, mais d'accepter que la question environnementale et toutes les questions politiques et autres qui vont avec, ce sont des questions qui peuvent être réglées qu'à l'échelle industrielle. À l'échelle industrielle, pas par l'industrie, attention, hein, quand on dit à l'échelle industrielle, c'est-à-dire à l'échelle véritablement de l'infrastructure colossale qui a été construite pour le meilleur et pour le pire, et pour une très grande partie pour le pire, par des millénaires d'exploitation humaine de la Terre sans penser au lendemain, par 150 ans de développement industriel, etc., etc. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On ne peut pas faire comme si on allait pouvoir se passer de pipeline et de câbles à fibre optique et de tuyaux qui emmènent notre merde dans des zones qui permettent où la merde peut être traitée, d'autoroutes pour faire circuler les marchandises, aussi locales soient-elles, il faut quand même que les marchandises circulent, etc., etc. Si on accepte que le monde est un monde de 7 milliards d'habitants dans lequel toute une série de personnes ne rêvent que d'une seule chose et que cette chose-là dont ils rêvent, c'est pas de permaculture. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut faire preuve de soit on est, comment dirais-je, on accepte effectivement la collapsologie comme un fait. Très bien. Soit on accepte, alors ça, c'est un fait, il n'y a rien à dire par rapport au fait. Soit on accepte, soit on dit décroissance pour tout le monde. Mais alors à quelles conditions ? Et de quel droit va-t-on imposer ces décroissances aux gens qui n'ont jamais rien eu ? Ouais. Et qui commencent maintenant à voir un petit peu, mais c'est déjà trop. Et on le sait, c'est déjà trop. Bon. Donc les problèmes étant si énormes, si massifs, ils ne peuvent être réglés qu'à des niveaux qui sont des niveaux eux aussi infrastructurels et à partir de l'acceptation de cette infrastructure. Ce ne sera pas retour au champ pour tout le monde. C'est juste pas possible. Voilà, ça nous emmène très très loin de l'indignation, mais...
Mais voilà. Je l'avais dit, hein, c'est possible que ça digresse un peu. Mais de toute façon, ça nous amène aussi vers la fin de l'entretien. J'avais envie de vous poser la question parce que c'est aussi un point d'interrogation que vous laissez à la fin du livre. Vous dites, en fait, la philosophie ne nous sauvera pas. Donc moi, là, j'ai mis, en tout cas, la philosophie, comme vous dites, au sens ancien du terme, donc en tant qu'une discipline qui régente le réel. Mais alors, comment est-ce qu'on peut faire de la discipline, de la philosophie, pardon, une discipline du tragique, enfin, une discipline qui nous permettent d'appréhender le réel.
Alors moi, j'aurais tendance à croire que la philosophie est quelque chose dont on peut faire l'économie, enfin pour tout. Hein. Je veux dire, vous avez la gentillesse de dire tout à l'heure que j'ai dit que j'étais philosophe. C'est pas vrai. Moi, j'ai fait des études de droit, si vous voulez. Donc, je suis docteur en droit. J'enseigne la théorie du droit. Donc, la philosophie, certains disent que j'en fais. Moi, je sais pas trop. Moi, j'écris. J'essaie de penser. Et j'essaie avec cette pensée j'essaie d'utiliser les outils qui viennent, qui m'aident à penser. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équipement de la pensée. La philosophie comme discipline, elle m'intéresse pas beaucoup. Et elle m'intéresse pas beaucoup parce que, pour deux raisons. Elle m'intéresse pas beaucoup parce que c'est une discipline. Et que la discipline en soi, je m'en branle. Mais elle m'intéresse pas beaucoup non plus parce que l'histoire de la philosophie, c'est pas une histoire de vieux monsieur barbu qui essaie de réfléchir au vrai, au beau et au bien, à la sagesse, etc. C'est pas vrai du tout. La philosophie, à travers toute son histoire, a joué toute une série de rôles, dont des rôles politiques, des rôles de conseiller du prince, mais surtout des rôles d'équipement de notre pensée qui rendent discibles un certain nombre de choses, indicibles un certain nombre d'autres, pensables un certain nombre, impensables, possibles, impossibles. La philosophie s'est toujours construite comme une discipline qui elle-même travailler à une forme de division du monde et à un réglage, au sens du règlement, de la règle, de la manière dont la parole et donc la pensée peut se déployer dans le monde. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire sauter, d'une certaine manière, ces règles, de dire, plutôt que de nous plier aux règles de la philosophie ou de tel moment dominant, hégémonique de l'histoire de la philosophie, puisque effectivement, ça a changé un petit peu dans tous sens, et Nietzsche n'est pas Kant, et Platon n'est pas Malebranche, etc., et les scolastiques ne sont pas Deleuze, mais de trouver une forme qui n'a pas besoin de répondre aux exigences de la philosophie pour pouvoir se dire penser. Je pense qu'en fait, la pensée, d'abord, elle est partout, mais il faudrait qu'elle soit davantage partout, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, elle est partout de toute manière, mais qu'elle soit reconnue partout et que les armes qui lui permettent de se dresser là où elle est dans sa pratique, je veux dire, l'infirmière, il y a une pensée de l'infirmerie, dans la pensée de l'infirmerie, il y a une pensée du corps, une pensée de la personne, une pensée de l'argent, il y a des pensées de toutes sortes et de toutes espèces. J'aimerais que ces pensées-là puissent se travailler, se construire et s'exprimer pour enrichir, si vous voulez, le champ des possibles pensables, plutôt que de décider que non, si vous pensez comme ça, alors c'est faux, parce que c'est un paralogisme de la raison pure, ou parce que ça ne correspond pas à la règle du tir exclu formulée par Aristote, etc. Vous voyez ? Donc moi, je serais pour une espèce de pensée sans règle, si ce n'est l'horizon de la construction des effets qu'elle pourrait. Produire ou qu'elle peut ou qu'elle pourrait rechercher.
Voilà, je pense que là on a fait quand même un tour pas mal de la question à quelques digressions, bien sûr. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Ça, c'est la question finale que je pose à tout le monde. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'aller au bout de ce que vous vouliez exprimer ?
Merci beaucoup pour vos questions. Non, je pense que si je rajoute quoi que ce soit, je pense qu'on est parti pour 6 ans.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Oh, I've been running from the law.